Oyé, qu'est-ce qu'on vient d'entendre là? Une
Du pipeau.
petite. Bon, ça tombe bien. Émission. Non, c'est pas du pipeau quand même. On peut pas dire ça. C'est le quiz biblique, bien entendu, chers amis auditeurs, auditrices de Radio Maria France. C'est parti. Et pour venir jouer avec ces petites questions, questions préparées. Donc, je vous rappelle que c'est un jeu. Et puis, on révise en même temps. On joue et on révise. Voilà. Et nous sommes avec Sandrine. Bonjour Sandrine.
Bonjour Jérôme.
Là, ça c'est de la musique. Hein. Là, je pense que c'était la traversée de la mer Rouge, avec on entendait les chars des Égyptiens poursuivant le peuple hébreu. Bon, je pense pas que ce soit le titre de la musique, mais voilà. Moi, je l'ai vu comme ça. Eh bien, voilà, chers amis auditeurs, c'est parti ce quiz biblique. Alors, nous avons déjà quelqu'un? Ou pas? Ou si? Ou non?
Jean-Mathieu est déjà là.
Jean-Mathieu, bonjour.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, ça va bien.
Alors c'est parti pour pour ce quiz biblique.
Je suis à côté sur le parachute.
À côté d'eux?
Je suis à côté sur mon parachute.
Bon, prêt à sauter donc.
Ouais.
Il faut bien vérifier le parachute avant de sauter quand même,
Ouais, c'est ça, ouais.
hein. Voilà, Jean-Mathieu, ben on va commencer avec les premières questions. Première question pour vous, Jean-Mathieu, qui sont pas directement des questions bibliques, mais on reviendra sur le. Ben, enfin, ça sera toujours autour de la Bible quand même et de la parole de Dieu, bien sûr. Et cette question, Jean-Mathieu, est-ce que vous êtes prêt pour la première?
Oui.
Alors, Jean-Mathieu, cette semaine qui vient de s'écouler, qui n'est pas finie, nous venons de célébrer Notre-Dame des Douleurs. Et Jean-Mathieu, Notre-Dame des Douleurs est vénérée le 15 septembre de chaque année.
Oui.
Donc là, c'était il y a quelques jours, avec rang de mémoire obligatoire sur le calendrier liturgique. Alors la question, elle est toute simple, Jean-Mathieu. De combien de douleurs de la Vierge Marie fait-on mémoire dans l'Église? Combien de douleurs de la Vierge Marie fait-on mémoire dans l'Église? Trois possibilités, Jean-Mathieu. 7, 10 ou 12. Alors, on fête les douleurs de la Vierge
Oui,
Marie
oui.
le 15 septembre. Mais la question, c'est combien de douleurs? 7, 10 ou 12? Les 7 douleurs de la Vierge ou les 10 ou les 12 douleurs de la Vierge? 12 pour Jean-Mathieu. Et je crois que nous avons quelqu'un d'autre qu'on va prendre juste après. La bonne réponse, c'était 7, Jean-Mathieu. Ce sont les 7 douleurs de la Vierge
Ouais,
Marie.
c'est ça, ouais.
Le chiffre 7, on sait que c'est un chiffre qui revient souvent dans l'Écriture, chiffre biblique.
Ouais,
Qui
c'est
revient
vrai.
souvent parce qu'il signifie, il a un sens, ce chiffre 7, il signifie la réalisation complète, l'accomplissement, une totalité.
Ouais, la totalité
C'est ce qui
de...
veut dire peut-être que voilà, que la Vierge Marie est passée vraiment par toutes les étapes possibles de la souffrance et de la douleur en suivant son fils
Mon
jusqu'à
fils.
la croix.
Voilà.
Voilà, donc fêter donc ce 15 septembre, les sept douleurs de la Vierge Marie. Et est-ce que nous avons donc quelqu'un?
Oui, Mireille est là. Bonjour.
Bonjour Mireille.
Bonjour.
Mireille qui appelle du Grand Est.
Oui, mais il fait beau.
Il fait beau chez Mireille. Amen, alléluia. Est-ce qu'il fait beau chez Jean-Mathieu?
Oui.
Ah ben voilà. Eh bien super, eh bien, vous avez eu Mireille, on a la première question qui a été posée donc à Jean-Mathieu juste avant. Donc deuxième question pour vous Mireille, si vous êtes prête.
Oui.
Alors on va rester avec ces célébrations là cette semaine. On vient de parler de...
Bonjour Mireille.
Bonjour Jean-Mathieu.
On vient de parler donc de Notre-Dame des Douleurs. Alors la question Mireille, c'est quelle est la célébration liturgique dans l'Église qui précède d'un jour, seulement d'un jour, la célébration de Notre-Dame des Sept Douleurs? Mais quelle est la célébration liturgique qui précède d'un jour celle de Notre-Dame des Sept Douleurs? Trois possibilités Mireille. La fête du Saint-Sacrement, ou bien la Croix Glorieuse, ou bien la Sainte Trinité.
La Croix Glorieuse.
Ah, c'est une excellente réponse de Mireille. Oui, c'est la Croix Glorieuse qui précède. Alors, on a vu que pour la Vierge des Sept Douleurs, c'est le pape Pie X au début du XXe siècle qui avait fixé au 15 septembre la célébration de Notre-Dame des Sept Douleurs. Et donc, le lendemain de la célébration de l'exaltation de la Croix ou la Croix Glorieuse, qui est donc le 14 septembre, fête de la Croix, et qui est bien sûr donc la célébration de la Croix sur laquelle Jésus a été crucifié. Alors, il faut bien distinguer le Vendredi Saint. On commémore la Passion, mais cette fête-là du 14 septembre, elle honore la croix elle-même comme instrument du salut.
Oui.
Voilà, alors que les autres dont on a parlé dans les possibilités de réponse, fête du Saint-Sacrement, c'est d'autres moments de l'année liturgique. Fête du Saint-Sacrement, je l'ai marqué, voilà, bon, on ne va pas forcément détailler, mais qui s'appelle également fête Dieu, dit aussi Corpus Domini, Corpus Christi. Aujourd'hui appelé par l'Église Solennité du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ, qui est célébré le jeudi qui suit la Trinité, 60 jours après Pâques, ou le dimanche d'après, dans certains pays comme la France. Cette fête donc, du Saint-Sacrement célèbre la présence réelle de Jésus-Christ dans le sacrement de l'Eucharistie, c'est-à-dire sous les espèces du pain et du vin consacrés au cours du sacrifice eucharistique. Et la Sainte Trinité, c'est une fête mobile, elle est célébrée le dimanche qui suit la Pentecôte, donc le huitième dimanche après Pâques. Donc comme elle est mobile, ça se situe parfois entre mi-mai et mi-juin. Et elle a pour but de rendre un culte solennel à Dieu un et trine, en exaltant sa nature divine unique, mais distincte en ses trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Excellente réponse de Mireille. On vient d'entendre la colombe. Jean-Mathieu, pour la question suivante, et on reste avec ces sept douleurs dont on vient de parler en première question. Jean-Mathieu, ces sept douleurs de Marie, et Jean-Mathieu pourra se faire aider par Mireille, hein, Mireille qui est à l'écoute aussi.
Oui, je suis à l'écoute.
Ces sept douleurs de Marie reposent, elles n'ont pas été sorties comme ça d'un chapeau, elles reposent sur sept épisodes évangéliques bien précis. Alors, parmi ces sept épisodes évangéliques précis, est-ce que vous pouvez, Jean-Mathieu, en citer trois, par exemple? Au moins trois parmi les sept. En vous faisant aider de Mireille. Voilà, donc ces sept douleurs correspondent chacune à un passage dans le Nouveau Testament. Est-ce que vous avez une idée?
Bon, je ne vois pas.
Alors, la première douleur, on va dire, c'est la fuite en Égypte.
Alors, c'est pas la première, mais c'en est une, oui. C'en est une. La fuite de la Sainte Famille en Égypte, tout à fait.
Et puis, je vais les donner dans le désordre. Hein. Quand Marie a perdu son fils.
Au temple. Pendant trois jours, tout à fait, c'est en fait deux.
Au pied de la croix. Hein.
Et oui, Marie contemplant la souffrance et la mort de Jésus sur la croix.
Ouais. Ensuite, Marie a reçu Jésus dans ses bras.
Oui, elle accueille son fils dans ses bras lors de la descente de croix.
Ah oui, il y avait aussi, Siméon qui lui annonçait qu'un glaive lui transpercera le cœur.
Et voilà, c'est la première, la prophétie de Siméon sur l'enfant Jésus.
Voilà.
Et donc là, il nous en manque 1, 2, 3, 4, 5, il en manque 2.
Il en manque 2, alors bon, c'est un peu embêtant.
C'est, parce déjà, que c'est déjà bien.
On médite le chapelet tous les mardis.
C'est déjà bien, Mireille, d'en avoir trouvé déjà 5. Alors, je peux vous aider pour la suite. Il y a également l'épisode de la rencontre de Marie et de Jésus sur le chemin de croix, en allant vers le calvaire.
Oui, au Mont Calvaire.
La Via Crucis, rencontre de Marie et Jésus. Et enfin, vous avez cité, Mireille, l'avant-dernière, c'est-à-dire Marie accueille son fils mort dans ses bras. Et il y a la dernière,
la septième. Et la mise au tombeau ?
Et oui, Marie qui laisse le corps de son fils lors de la mise au tombeau. Exactement. Ouais. Et là, on a bien donc les sept douleurs de Marie dans tous ces épisodes évangéliques. Je ne vais pas vous donner les références bibliques. En tout cas, pour la dernière, Marie qui laisse le corps de son fils au tombeau, on peut aller voir en Jean, au chapitre 19, versets 40-42. Voilà quelles sont ces sept douleurs et quels sont ces sept passages bibliques sur lesquels repose cette dévotion. Et nous poursuivons avec Mireille.
Je ne suis pas trop calé, moi.
Voilà, donc on va revenir au biblique. Hein. Alors,
Jean-Mathieu, je vous invite au chapelet le mardi soir à 18h, hein, avec Kibéo.
Voilà. Et oui, nous avons une émission sur l'antenne de Radio Maria France, comme le dit très bien Mireille. Tous les mardis à 18h, nous sommes en direct depuis le Rwanda, le sanctuaire de Notre-Dame de Kibéo. Au Rwanda, et il prie le chapelet des sept douleurs de la Vierge Marie.
Ah, d'accord.
Un très très beau chapelet, très très priant, magnifique.
Eh bien, je me mettrai en esprit avec vous, je prierai avec vous tous les mardis.
Voilà. Eh bien bon, question suivante que pour Mathieu, Mireille qui peut venir aider aussi. On continue toujours avec ces sept douleurs, après on a fini. Il existe un chapelet, justement, un chapelet aux sept douleurs, qui a été développé par l'Ordre des Servites de Marie. Alors c'est un chapelet qui forme un collier de sept septaines de grains, séparés chacune par une petite médaille qui illustre une des douleurs de Marie. Alors ces médailles qui peuvent être remplacées par des grains plus gros que les 49 autres, hein, puisque donc on a bien 7 fois 7. Alors quel autre nom, c'est la question, quel autre nom est parfois donné à ce chapelet, le chapelet des sept douleurs? Il a un autre nom qu'on utilise parfois. Alors, trois possibilités de réponse. Le chapelet aux sept épées, le chapelet aux sept tristesses ou le chapelet aux sept afflictions. Pas facile, celle-là. Chapelet aux sept épées, chapelet aux sept tristesses, chapelet aux sept afflictions.
Sept épées, je crois.
Et c'est une excellente réponse de Jean-Mathieu. Et oui.
Oui, parce que l'image même est représentée avec les sept épées, hein, au cœur de Marie.
Et vous savez pourquoi?
Je sais pas, c'est chaque douleur, hein, qui lui perce le cœur,
Le glaive qui transperce le cœur de Marie.
Exactement, c'est la prophétie de Siméon. C'est pour ça que ce mot a été retenu, hein, chapelet aux sept épées, en référence à cette prophétie de Siméon, que je vous rappelle, hein, voit. Cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe en but à la contradiction. Et toi-même, par la Marie bien sûr, une épée te transpercera l'âme afin que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs.
Ouais.
Voilà, c'est pour ça qu'on a retenu également cette dénomination de ce chapelet avec les sept épées. Et vraie fille de Sion, hein, Marie portera en sa propre vie la destinée douloureuse de son peuple, et avec son fils, elle sera au centre de cette contradiction où les cœurs devront se découvrir pour ou contre Jésus. En tout cas, c'est une très très belle prière. J'invite ceux qui ne la connaissent pas à essayer une fois de prier avec ce chapelet des sept douleurs. Eh bien, nous continuons avec Jean-Mathieu.
Non, c'est pas moi.
C'est Mireille. Non, là, c'était Mireille pour la question précédente, à l'instant.
D'accord.
Jean-Mathieu. Ah, on continue encore, j'ai encore une question. Quel pays d'Europe centrale, on part en Europe centrale, Quel pays d'Europe centrale a une dévotion particulière et forte pour Notre-Dame des Sept Douleurs? D'ailleurs, elle est la patronne de ce pays. On est bien en Europe centrale. Alors, trois possibilités, Jean-Mathieu. S'agit-il de la Hongrie, ou bien de la République tchèque, ou bien de la Slovaquie?
République tchèque.
République tchèque pour Jean-Mathieu. Mireille, est-ce que vous êtes d'accord?
Mais le pape François était là-bas, c'était pour cette occasion.
Il était où?
Il était en Hongrie, en Slovaquie, non? Il a fait les deux.
Oui, mais oui, c'était la deuxième, la Slovaquie. Et oui, c'est la Slovaquie.
La Slovaquie, hein.
Oui, c'était le voyage tout récent, voyage apostolique du Saint-Père en Slovaquie. Il s'est arrêté effectivement pour le congrès eucharistique en Hongrie, mais c'était la grosse partie de son voyage, c'était pour la Slovaquie.
Oui.
Et effectivement, le 15 septembre, écoutez bien, le 15 septembre, c'est un jour férié en Slovaquie. Pourquoi? Pour fêter justement Notre-Dame des Sept Douleurs, qui est la sainte patronne du pays depuis 1927. Et elle est vénérée dans cette ville qui s'appelle Sastin, petite ville qui est située à 70 km au nord de Bratislava, la capitale, vénérée depuis 1732. Et effectivement, comme le dit Mireille, le pape s'y est arrêté là tout récemment, puisque c'était la dernière étape de son voyage apostolique dans ce pays. Alors, qu'est-ce qu'on trouve à Sastin? Eh bien, on trouve un sanctuaire national avec la basilique des Sept Douleurs de la Vierge Marie, où le Saint-Père d'ailleurs a célébré une messe devant des milliers de fidèles. En tout cas, ce qui est important, c'est de retenir que tous les chrétiens et les catholiques de Slovaquie ont vraiment une très forte dévotion avec la présence de cette basilique, lieu de pèlerinage, sanctuaire très très important où est vénérée la Vierge Marie des Douleurs. Eh bien, nous sommes toujours dans le quiz biblique. Si quelqu'un veut s'ajouter au duo Mireille-Jean-Mathieu, il est le bienvenu. C'est pas fini, on peut y aller, on peut venir encore. On entend le coucou. Je peux vous dire que Sandrine sourit, elle aime le coucou. Alors,
c'est un des deux qu'as-tu eu.
Mireille,
oui.
Are you ready?
Oui.
Alors cette fois, nous partons au chapitre 22 du livre de l'Apocalypse. Alors, en référence à l'alphabet grec, quel est le titre divin qui est attribué à Jésus-Christ? Dans ce chapitre 22 du livre de l'Apocalypse, quel titre divin est attribué à Jésus-Christ? Trois possibilités. L'agneau, l'alpha et l'oméga, ou le fils de l'homme? Alors il y a une aide dans la question même, hein, puisque j'ai dit au chapitre 22 du livre de l'Apocalypse, en référence à l'alphabet grec, quel est le titre divin attribué à Jésus-Christ, l'agneau, alpha et oméga, ou fils de l'homme?
L'alphabet grec, est-ce que ça commence comme chez nous, c'est l'agneau?
L'agneau ou...
Alors, agneau... Moi j'aurais dit le fils, mais bon, le fils de Dieu.
Le fils de l'homme?
Oui, le fils de l'homme.
Et Jean-Mathieu?
L'alpha et l'oméga.
Et oui, c'est l'alpha et l'oméga. Et oui, alpha et oméga, Apocalypse 22, verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le principe et la fin. Première et dernière lettre de l'alphabet grec. Cette expression signifie donc le premier et le dernier de l'histoire, le commencement et la fin de tout ce qui existe. Voilà, tout est contenu. Alpha et oméga. C'est un titre divin attribué à Jésus-Christ dans ce passage du livre de l'Apocalypse.
Dans l'Apocalypse, il en parle un peu.
Mais il y a également, bien sûr, et Mireille l'a cité un moment, je crois, mais effectivement, il y a aussi, bien sûr, le titre de l'agneau, bien sûr, qui apparaît dans le livre. Alors, la question suivante pour Jean-Mathieu.
Oui.
Are you ready?
Allez-y, Mario.
Ça, c'est quoi comme animal, Sandrine?
Des écureuils.
Ah oui, c'est vrai, j'arrive jamais à reconnaître l'écureuil. Alors, Jean-Mathieu, de quel autre apôtre André était-il le frère? De quel autre apôtre André était-il le frère? Trois possibilités, Jean-Mathieu. Est-ce que c'était le frère de Pierre, bien de Jacques, ou bien de Jean?
Jacques.
Pour Jean-Mathieu, Mireille, est-ce que vous êtes d'accord?
Je
pense que c'est... Alors, c'est Simon.
Simon-Pierre.
Simon-Pierre.
Pierre. Et oui, c'est Pierre, la bonne réponse.
Ah. Oui, mais oui, au départ, son prénom, c'était Simon. Hein.
Oui, Simon. Voilà, on dit Simon.
Ça s'appellerait Pierre, oui, voilà.
Parfois, on dit même les ensemble, Simon-Pierre. Effectivement, c'est bien Pierre. Ils sont frères tous les deux, André et Pierre, ou André et Simon-Pierre. Et vous pouvez vous reporter dans Matthieu chapitre 2, chapitre 10, verset 2, ou bien Marc chapitre 13, verset 3, même dans Jean chapitre 6, verset 8, etc. Andreas, c'est le nom grec, est donc bien le frère de Simon-Pierre. Il est originaire, ce André, de Bethsaïde. Il habite à Capharnaüm et il fut un disciple du Baptiste avant de suivre Jésus. Et il va devenir bien sûr l'un des 12.
Ouais.
Il est l'un des deux premiers à suivre Jésus. Voilà pour Andreas. J'entends l'eau qui coule.
Ah, c'est la source vive.
Ouais, ou c'est le Jourdain peut-être.
Ah.
Alors, question suivante pour Mireille.
Oui.
Alors attention Mireille. On va cette fois chez les animaux. Ça tombe bien. On en a plein en réserve. Alors, Mireille, quel est l'animal domestique parmi les plus estimés des Israélites ? Quel est l'animal domestique parmi les plus estimés des Israélites, Mireille ? Trois possibilités. Le cheval, l'agneau ou l'âne ? Mmh. Bon, c'est une question un peu plus légère, on va dire. Mais qu'était...
L'agneau.
L'agneau pour Mireille. Et Jean-Mathieu aussi ?
L'âne.
Et oui, c'est l'âne qui vient de se manifester à l'instant quand il entend qu'on parle de lui. Et oui, l'âne familial. Alors l'âne familial est pacifique, mais aussi le petit de l'ânesse sur lequel vient le Messie du récit des rameaux. Et l'âne, il apparaît également plusieurs fois dans l'Ancien Testament.
Non, avec la Vierge Marie, elle est partie voir sa sœur.
Voilà, quand la Vierge Marie part sur un âne, c'était un moyen de locomotion. C'était un animal qui était à la fois très utile, bien sûr, mais aussi très aimé, très estimé. Voilà pour cette question sur l'âne. Alors, la question suivante, c'est pour Jean-Mathieu.
Oui.
Alors, Jean-Mathieu, on va aller chez les prophètes cette fois, parmi les trois prophètes suivants que je vais citer. Alors, c'est ceux qui font partie, vous savez, de ceux que l'on nomme les 12 petits prophètes dans l'Ancien Testament.
Ouais.
Vous avez les grands prophètes, hein, Jérémie, Isaïe, mais vous avez 12 petits prophètes. Alors, parmi ces trois suivants, lequel, justement, mentionne la prophétie de l'arrivée du Messie monté sur un ânon ? Et on est toujours avec l'ânon. Lequel mentionne la prophétie de l'arrivée du Messie monté sur un ânon ? Est-ce qu'il s'agit de Michée, Osée ou Zacharie ?
Zacharie.
Excellente réponse de Jean-Mathieu.
Trop fort.
Trop fort, ce Jean-Mathieu.
Oh non, c'est pas fort, moi.
Et oui, Zacharie, chapitre 9, verset 9. Retenez bien, c'est facile. 9:9. Chez Zacharie, je vous cite le passage. Exulte avec force, fille de Sion. Crie de joie, fille de Jérusalem. Voici que ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, humble, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Alors, c'est quand même beau de voir ça chez Zacharie. Évidemment, cette prophétie, elle est reprise au chapitre 21 de l'évangile de Matthieu, lors du récit de l'entrée messianique de Jésus à Jérusalem. Voilà, chers amis. Je me déplacerai bien en âne, mais avec un âne, mais avec toutes ces voitures, c'est pas possible. Mireille, are you ready?
Oui.
Alors Mireille, on y va, c'est parti. On va cette fois dans la première épître de Saint Jean. Première épître de Saint Jean au chapitre 2. Alors, qui l'auteur de la lettre, de cette lettre seconde, première épître de Saint Jean, qui l'auteur de cette lettre désigne-t-il comme les antichrists ? Alors, trois possibilités, Mireille. Les anges déchus, les païens hostiles ou les chrétiens apostats.
Aïe, aïe, aïe.
Oh, yo, 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 yo.
Alors, je l'ai lu il n'y a pas très longtemps avec Open Bible.
Alors, c'est premier épître de Jean.
Ceux qui disent que le Christ n'existe pas, que Jésus n'est pas fils de Dieu, c'est les antiquistes.
Voilà.
Et donc, c'est les, on les appelle les...
Alors, mais ces personnes-là qui sont désignées par Jean, comme, est-ce qu'ils parlent d'anges déchus, ou bien est-ce qu'ils parlent des païens qui sont hostiles, ou bien des chrétiens qui sont apostats, qui ont tourné le dos, quoi.
Alors, je vais dire... je sais pas.
Alors, on va utiliser le pifomètre. Le pifomètre, on le sait, chers amis auditeurs, ça marche très très bien dans le jeu du quiz biblique. Est-ce que Jean-Mathieu a une idée ?
Les chrétiens.
Les chrétiens apostats, pour Jean-Mathieu.
Oui.
Est-ce que Mireille pencherait plutôt pour ça ?
On va dire les païens.
Les païens hostiles. Eh bien, c'est notre ami Jean-Mathieu qui a la bonne réponse. Ce sont les chrétiens apostats. Vous pouvez aller voir...
Oh là là, j'espère qu'Open Bible ne m'écoute pas, hein, parce que sinon...
Ah ben, de toute façon, on révise. Première lettre de Jean, chapitre 2, verset 18, je vous lis le passage. « Petits enfants, voici venue la dernière heure. Vous avez ouï dire que l'Antichrist doit venir. Et déjà maintenant, beaucoup d'antichrists sont survenus. À quoi nous reconnaissons que la dernière heure est là ? Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. » Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que apostat, c'est que ça veut dire qu'ils appartenaient à la communauté.
À l'église.
Et oui, ils appartenaient à la communauté tout en ne possédant plus du tout l'esprit du Christ.
Voilà.
Donc ce sont des personnes, on va dire, un peu de l'intérieur. Ce n'est pas des païens qui sont... en dehors complètement, ce sont des chrétiens apostats, c'est-à-dire des chrétiens qui ne croient plus, qui n'ont plus l'esprit du Christ sur eux. Voilà, excellente réponse de Jean-Mathieu. C'était une question posée à Mireille, donc maintenant, question à Jean-Mathieu.
Oui.
Alors Jean-Mathieu.
C'est bon ?
Cette fois, c'est un peu de, on va dire de géographie. Quelle était la troisième ville la plus importante de l'Empire romain ? Après les deux premières qui sont bien sûr Rome et ensuite Alexandrie, quelle était donc la troisième ville la plus importante après Rome et Alexandrie ? Jean-Mathieu, trois possibilités. Corinthe, Antioche ou Éphèse ?
Antioche.
Ouh là là, réponse qui fuse. Excellente réponse de Jean-Mathieu.
Bravo.
Jean-Mathieu, alors Mireille, on peut dire que Jean-Mathieu, c'est une open Bible à lui tout seul.
Oui.
D'ailleurs, peut-être qu'il participe. En tout cas, c'est une excellente réponse. Antioche de Syrie, parce qu'il y a une autre Antioche dans la Turquie actuelle, au milieu de la Turquie actuelle. Là, il s'agit bien d'Antioche de Syrie, qui a été fondée en 300 avant Jésus-Christ, foyer de civilisation hellénique. Elle fut la capitale de la province romaine de Syrie en 64 avant Jésus-Christ. Troisième ville de l'Empire après Rome et Alexandrie. Vous savez pourquoi ? Elle comptait environ 300 000 habitants. Ce qui, pour l'époque, hein,
il y avait plus de monde.
Pour l'époque, c'est beaucoup. 300 000 à peu près, environ, dont 10% de juifs. Elle fut, avec Jérusalem, l'un des deux premiers centres de diffusion de la foi chrétienne. Ça aussi, c'est important à retenir. Hein, il n'y a pas que Jérusalem. Antioche a été vraiment un foyer de diffusion du christianisme. Très important. Eh bien, il nous reste encore un petit peu de temps et nous allons poser la question suivante à Mireille.
Oui,
Mireille,
nous allons rester avec Antioche. La ville d'Antioche, elle est mentionnée plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Alors, à quel propos ? C'est la question. Et attention Mireille, plusieurs bonnes réponses possibles. Alors, voici les trois possibilités. C'est une ville où les disciples reçurent pour la première fois le surnom de chrétien. Deuxième possibilité, c'est la communauté d'Antioche qui envoya Paul annoncer le Christ au monde méditerranéen. Troisième possibilité, il s'y déroula des controverses entre chrétiens. La ville d'Antioche mentionnée plusieurs fois dans le Nouveau Testament, à quel propos ? Donc, ville où les disciples reçurent le nom pour la première fois, le surnom de chrétien. Ville qui envoya Paul annoncer le Christ au monde méditerranéen. Troisième, il s'y déroula des controverses entre chrétiens, des disputes.
Alors, le premier et le deuxième.
Le premier et le deuxième pour Mireille. Jean-Mathieu, qu'est-ce que vous diriez ? Même chose ?
Le premier et le troisième.
Le premier et le troisième. On va demander à Raymond. Le premier et le deuxième pour Raymond. Et Sandrine ? Ah, Sandrine a la réponse, donc je ne vais pas lui demander. Eh bien, ce sont les trois, mes amis.
Ah, d'accord. J'ai dit la première et la troisième.
C'est les trois. Et oui, alors, par exemple, pour le surnom de chrétien, vous trouvez ça dans les Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26.
Il y a toujours une offre quelque part. Hein.
Pour l'envoi de Paul dans le bassin méditerranéen, vous trouvez ça également dans les Actes, chapitre 13, verset 1 à 3. Et puis alors pour les controverses, alors là, controverses entre chrétiens d'origine juive et chrétiens d'origine païenne, par exemple sur les viandes sacrifiées aux idoles, Actes des Apôtres, chapitre 15, mais aussi controverses sur le comportement de Pierre avec les païens. Et ça, vous trouvez ça chez Paul, Galates, chapitre 2, verset 11. On sait qu'à un moment, Pierre, il mange avec les païens. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage. Tout d'un coup, de Jérusalem, il y a des personnes dans l'entourage de Jacques. Vous savez que Jacques est le chef de l'église à Jérusalem. Des personnes de son entourage arrivent à Antioche. Et là, Pierre, il est gêné. Il se tient à l'écart. Et du coup, il entraîne avec lui les autres juifs qui n'osent plus manger avec les païens, y compris Barnabé, le compagnon de Paul. Donc, il va recevoir une fusée de saint Paul qui va le remettre... qui va le remettre droit. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour la partie des controverses, mais effectivement, les trois bonnes réponses étaient là. Donc, ville d'Antioche, très très importante. On l'a vu sur le plan géographique à la question d'avant, troisième ville de l'Empire, mais aussi très importante parce que ça va être le foyer de diffusion du christianisme, peut-être aussi important que Jérusalem, peut-être même plus, on pourrait dire, en exagérant un petit peu peut-être. Voilà, nous allons proposer la dernière question, Mireille, Jean-Mathieu.
Oui.
Et là, on entend les chatons. Alors, Mireille, Jean-Mathieu.
Oui.
Que signifie étymologiquement, c'est-à-dire depuis la racine grecque, depuis le grec, le terme apostasie ? On a parlé tout à l'heure d'apostat, hein, vous vous souvenez ? Que signifie étymologiquement depuis le grec le terme apostasie ? Trois possibilités. Renier, ou bien se séparer d'eux, ou bien contester.
Contester.
Contester pour Mireille. Ouh là là, très rapide, Mireille. Jean-Mathieu, est-ce que vous êtes d'accord ?
Répétez parce que je n'ai pas compris. Là.
Alors, que signifie en fait le terme apostasie dans sa racine étymologique ? Est-ce que ça veut dire renier, ou bien se séparer d'eux, ou bien contester ?
Renier.
Ah, contester, maintenant, renier. Même Mireille est passée à renier. Bien joué, Mireille. Mais en tout cas, non, c'est ni l'un ni l'autre. C'est se séparer d'eux. Se séparer d'eux, s'écarter d'eux. Du grec apostasia. Alors, se séparer d'eux, ça peut être au sens spatial comme au sens figuré. Par exemple, les hommes se séparent de Dieu. Et c'est ça qui consiste proprement dans l'apostasie, on se sépare de Dieu. Au sens spatial, on trouve chez Luc 2, 37, à propos de la prophétesse Anne, je vous cite le passage, « Elle était restée veuve et avait atteint l'âge de 84 ans, elle ne s'écartait pas du temple. » Donc ça, c'est le contraire. C'est le contraire de l'apostasie, c'est-à-dire qu'elle elle restait fidèle. Le contraire qu'on peut justement traduire par fidélité, confirmation, etc. Voilà, qu'est-ce que j'avais comme autre exemple ? Chez saint Paul, deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, il faut que vienne d'abord l'apostasie et que se révèle l'homme de l'impiété, le fils de la perdition. » Et voilà. Attentif aux signes des temps. Voilà, nous arrivons à ce terme, parce que je crois que c'est bientôt la prière des vêpres. En tout cas, merci mille fois, merci infiniment, merci Mireille.
Merci. Bravo Jean-Mathieu.
Bravo, c'est bravo à toi.
Bravo Jean-Mathieu, qu'on va appeler également...
bravo à Mireille.
On va appeler Jean-Mathieu OP, hein, maintenant. Open Bible.
Oui. Open Bible. Open Bible.
C'est Mireille qui est championne.
Jean-Mathieu est une Bible sur pattes.
Bon.
Merci en tout cas. Merci beaucoup à tous les deux. Et à très bientôt.
À bientôt. Au revoir. Bon
au revoir.
Week-end.
Bon week.
Bye.
Au revoir à tous les deux. Bye.
Au revoir. Bye.
Au revoir. Au revoir.
Et au revoir Sandrine.
Au revoir Jérôme.
Et à vendredi prochain.
Et à vendredi prochain.
Et au revoir Raymond.